Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la sixième émission de Biotope, une émission produite alternativement par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol en partenariat avec le dispositif BioVallée. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'épineux problème de la gestion des déchets. Les sociétés traditionnelles produisaient des déchets relativement bénins pour le voisinage, d'autant qu'ils étaient limités et putrescibles. Depuis, la rupture avec la nature est consommée du fait de l'impérieuse réussite du modèle urbain et consumériste, étayée sur l'appétit de puissance servi par la maîtrise technologique. La planète croule sous les déchets avec des conséquences sans doute très graves et qu'on a encore du mal à imaginer. L'image terrible de la grande zone d'ordure du Pacifique, ce vortex d'ordures plastiques imputrescibles tournant sans fin, fait froid dans le dos. La prise de conscience de la nécessité de collecter et recycler les déchets générés par la société de consommation s'est faite progressivement pour devenir cruciale non seulement pour des questions environnementales mais aussi pour des questions économiques. Aujourd'hui, avec nous sur le plateau, deux invités qui nous apporteront leurs connaissances concrètes sur ce dossier, Jean-Pierre Rouit et Philippe Méjean, que je vais laisser se présenter. Bonjour monsieur.
Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Jean-Pierre Rouit, je suis le maire de Rocoubo-Jansac, élu à la communauté de communes du Diwa, vice-président en charge des ordures ménagères. Voilà, tout le monde connaît le territoire de la communauté de communes du Diwa, 52 communes, 4 cantons.
Et combien d'habitants ?
Environ 12 000 habitants.
Voilà.
Philippe Méjean, chef de projet BioVallée pour 80% de mon temps et pour 20% de mon temps à la communauté des communes du Diwa, en appui à l'équipe technique et au vice-président pour faire évoluer le service des déchets.
Alors, en quelques mots, c'est compliqué de gérer des déchets à l'échelle de la communauté de communes ? Ça mobilise beaucoup de personnes ?
Ça mobilise pas mal, c'est un chantier qui est quand même conséquent et il faut associer aussi à notre visite aujourd'hui notre technicien Frédéric Sauvé, qui lui est sur le terrain et gère le personnel, les camions, l'équipe, les déchetteries et tout ce qui va avec.
Alors moi ce que je vous propose c'est d'écouter un petit micro-trottoir qu'on a réalisé à 5 ou 6 citoyens qui ont dit ce qu'ils pensaient de la collecte des déchets au niveau local.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
On parle beaucoup de recyclage des déchets, comment vous le vivez ?
J'habite à Mont-Laure et on a un système de collecte avec pas mal de choses, il manque que les corps creux en fait, sinon tout le reste effectivement est collecté. On a une déchetterie sur Luc en Diwa qui fonctionne bien. Sur l'ensemble, moi je suis très content de la politique qui est menée sur la partie collecte des déchets et recyclage. Là aussi c'est vrai, avec des augmentations de coûts au niveau du citrate qui sont quand même assez impressionnants quand on voit ce que ça coûte par habitant. Et tant qu'on sensibilisera les gens et qu'on mettra de l'argent sur la sensibilisation, je pense qu'on fera des économies derrière, à long terme, parce qu'au final, les gens étant mieux sensibilisés, on aura des coûts de traitement qui seront beaucoup moindres.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez du recyclage des déchets ? Est-ce que vous vous sentez concerné ?
Ah bah parfaitement. Par exemple, recyclage des déchets nucléaires, tout ce qu'on jette à la poubelle, en fait, tout ça finit en bitume, en enrobé. Et l'avantage, c'est comme ça, après, ça s'infiltre, ça descend dans les nappes phréatiques. Et nous-mêmes, comme ça, notre organisme recycle tout ce qu'on jette, en buvant de l'eau, en fait, l'eau des nappes phréatiques. Comme ça, on va pouvoir remanger nos déchets sous forme de carottes, de betteraves. En Angleterre, par exemple, il y a les garçons qui ont les seins qui poussent, parce que les filles, quand elles prennent la pilule, elles vont aux chiottes, et après, ça se retrouve dans les nappes phréatiques. Et du coup, les garçons ont des seins. C'est bien pour l'égalité des sexes, quoi.
Je préfère acheter des produits frais, donc qui ne sont pas emballés. Et comme ça, au mieux, j'ai un compost à la maison. Et je passe pas mon temps à trier mes déchets. C'est un gros business, hein, le triage des déchets.
Oui, parce que comme ça, on use moins de choses et c'est bon pour la planète.
Est-ce que vous connaissez comment ça fonctionne, le système de recyclage ? Qui s'en occupe ici même dans le Diwa ?
Honnêtement, non.
Tu sais par exemple à quoi ça sert les gros conteneurs dans les points propres ?
Déjà, il y a le conteneur vert, donc c'est pour mettre les verres. Sinon, il y a les conteneurs jaunes, c'est pour mettre carton, plastique. Puis après, il y a le conteneur bleu. Plutôt pour les boîtes de conserve en fer.
Combien de temps par jour ça vous prend de recycler ?
Oh bah rien, rien. Ça me prend pas de temps, non, ça me prend...
Un peu d'espace, il faut plusieurs bacs, non ?
Non, je mets des affaires dans un sac plastique qui encombre ma cuisine, effectivement, oui, un petit peu, et pendant un certain temps. Et quand ça encombre trop, eh bien, je vais faire ça dans des bacs de la ville, là, des choses plastiques, carton, verre, voilà.
Est-ce que vous faites confiance aux institutions pour le tri des déchets ?
Je pense que je fais excessivement confiance aux institutions en général. Je pense que ce serait intéressant justement qu'on sache un peu mieux comment ça marche effectivement, pour qu'on puisse avoir confiance. Et si on a confiance, on fait plus les choses. Et si on les fait plus, ben ça marche mieux.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
On parle beaucoup de gestion des déchets. Est-ce que vous vous sentez concerné ?
Ah ben bien entendu, c'est un problème majeur. La planète est envahie de déchets. Les océans sont pollués par les sacs en plastique. On ne sait pas, et parlons pas des déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire. Ils sont là pour quelques centaines de milliers d'années, donc c'est un vrai problème, on produit beaucoup trop de déchets.
Dans votre vie, que faites-vous pour régler ce problème de déchets ?
Bah, je fais tout ce que je peux, c'est-à-dire non, je pourrais certainement faire plus, mais je refuse des sacs en plastique dans les commerces, j'ai mes propres sacs. Je fais mon compost, donc je retraite mon compost, et puis je fais comme tout le monde, je fais le tri, je jette les bouteilles dans la poubelle aux bouteilles. Et c'est surtout, il faudrait qu'on produise beaucoup moins d'emballages et de déchets. Et ça, je ne sais pas comment les autorités peuvent encourager ça.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
J'ai bien aimé ce petit garçon qui semblerait avoir besoin de formation encore, parce qu'il mélange un petit peu tous les bacs.
Oui, en effet, mais bon, la couleur des bacs, ça s'apprend. Le bac jaune est plutôt pour les déchets qui ne sont ni carton ni verre et qui sont quand même recyclables. Mais les indications sont portées sur les bacs et il est très facile de s'y retrouver.
Donc il y avait un intervenant qui parlait de sensibilisation. Donc vous faites peut-être des actions de sensibilisation envers les enfants. Peut-être ça commence tôt.
Ça commence tôt. On travaille d'ailleurs avec lycée et collège du Diwa, où on essaye de mettre en place un tri des déchets de table, de préparation. Déjà, dans un premier temps, déchets de préparation de repas. Et après, dans un deuxième temps, on pourrait aussi trier les déchets de table. On a mis ça en place avec le Martouré. Eux, actuellement, ça sera pour la deuxième saison consécutive, dans les déchets de préparation de repas. Ça leur fait un petit peu souci de passer à la deuxième phase.
Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Marie Tizi, responsable du service déchets à la CCVD, la Comité du Val-de-Drôme, qui abordait le destin des déchets une fois qu'ils ont été collectés par les citoyens.
Marie Tizi, bonjour.
Bonjour.
Quel est le destin de ces objets recyclés ? Souvent, on dit qu'on les collecte, mais est-ce qu'il y a vraiment une valorisation de tous ces déchets ?
Oui, bien sûr que ce qu'on fait trier aux gens, c'est pour les valoriser et c'est pas pour le plaisir de faire trier les gens. Toutes les collectivités aujourd'hui, et la CCVD en fait partie, quand vous mettez à disposition des gens des contenants, que ce soit des colonnes de tri, des bacs individuels pour la collecte sélective, ça part dans des centres de tri. Ces centres de tri vont séparer les différents matériaux, en faire des balles, et ces balles sont ensuite revendues à des repreneurs pour fabriquer de nouvelles matières premières. Donc ça, c'est valorisé sous forme de recyclage, c'est-à-dire qu'à partir d'un déchet, on fabrique une nouvelle matière première qui rentre de nouveau dans un process de fabrication de biens de consommation. C'est vrai pour la ferraille, qui part chez des ferrailleurs qui vont trier les différentes catégories de ferraille, et c'est refondu, on refait de la ferraille avec. C'est vrai pour les déchets verts dans une certaine mesure. On ne parle pas de recyclage, on parle plus de valorisation organique puisqu'on va en faire
du
compost. Ou on pourrait en faire du méthane, ce n'est pas le cas chez nous, mais ça se fait effectivement dans certaines collectivités. Pour le bois, on a également de la valorisation. Alors soit de la valorisation matière quand le bois est déchiqueté et sert en bois énergie. Soit en matière première également, quand il est déchiqueté, compacté et utilisé dans la fabrication d'agglos, par exemple, de contreplaqués, etc. Certains déchets sont triés et valorisés de façon un peu différente, comme l'inerte. On va trier les différentes catégories d'inerte et ça peut être de nouveau utilisé une fois que c'est criblé, concassé pour être utilisé soit en sous-couche routière, soit dans la fabrication, dans le BTP en général. Il reste un déchet qui n'est pas valorisé, les encombrants, qui partent en centre de stockage et qui sont donc, au jour d'aujourd'hui, enfouis dans des centres qui sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc c'est des zones qui sont connues, qui sont contrôlées. Il y a une protection du sous-sol pour éviter les infiltrations. Le biogaz qui se dégage de la décomposition des déchets est récupéré. Tous les déchets entrants sont pesés. Donc il y a un vrai contrôle qui est fait sur ces centres-là. Ça n'a quand même absolument rien à voir avec les décharges sauvages ou les anciennes décharges qu'on avait dans les communes autrefois.
Et les D3E, les déchets d'équipement électrique et électronique ?
Les déchets d'équipement électrique et électronique sont collectés dans les déchetteries par des sociétés privées qui ensuite les démantèlent. C'est-à-dire qu'en fait, ça part dans des centres de regroupement-démantèlement où on va à la fois les trier par catégorie, mais également séparer les matériaux les uns des autres, dépolluer ces produits, parce que dans un frigo, vous avez du fréon notamment et des gaz dangereux. Dans les écrans, vous avez des terres rares qu'il faut récupérer également. Et ensuite, il y a une partie qui peut être valorisée et recyclée, comme certains métaux, semi-précieux, précieux et plus courants. Certains plastiques, mais pas tous. Et puis, il y en a une partie qui sera incinérée dans des incinérateurs de déchets industriels spécifiques et une partie qui sera enfouie, qui partira également en centre de stockage, mais cette fois-ci plutôt de classe 1, c'est-à-dire centre de stockage pour les déchets dangereux.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le taux de recyclage des déchets augmente ou est-ce qu'il y a une espèce de stabilité ?
La collecte sélective a vécu différentes phases. Va plutôt en amélioration. Il y a des années où on stagne un petit peu, où on a quelques chutes. C'était le cas l'année dernière, où on a collecté un peu moins de papier carton et on a un peu du mal à se l'expliquer, mais c'est un phénomène national. Donc peut-être que la crise a joué, que la consommation a évolué un petit peu. Cela dit, on arrive à faire évoluer tranquillement la collecte sélective et c'est important de continuer de toujours trier pour la bonne et simple raison que, étant donné les obligations réglementaires, si aujourd'hui on arrêtait de trier nos déchets et qu'on mettait tous les déchets, que ce soit de la collecte sélective, déchets qui arrivent en déchetterie et les ordures ménagères ensemble, le seul moyen de traiter ces déchets, ce serait soit de les incinérer, soit de les mettre en centre de stockage. Ce sont les deux modes de traitement qui coûtent le plus cher et pour lesquels on n'a que des dépenses et aucune recette. Aujourd'hui, trier ces déchets, ça permet aux collectivités d'avoir des recettes par la revente des matériaux qui ne viennent pas équilibrer les dépenses, mais qui, malgré tout, sont des recettes. Donc, tout ce qu'on peut trier et tous les déchets qu'on envoie dans les bonnes filières, c'est là que le déchet nous coûte le moins cher. Bien évidemment, derrière ça, vous avez un avantage environnemental non négligeable qu'il faut évidemment prendre en compte par rapport à l'utilisation d'un déchet comme nouvelle matière première. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à la valorisation des déchets, c'est qu'effectivement, certains déchets ne sont aujourd'hui pas triés et valorisés pour différentes raisons. Soit parce qu'on ne sait pas encore faire, soit parce que la filière nationale n'est pas encore en place. On devrait voir assez rapidement, dans les 2-3 ans qui arrivent, l'organisation de la filière des textiles et mobiliers, c'est-à-dire qu'on va se mettre petit à petit à trier les mobiliers, les textiles qui seront eux-mêmes démantelés comme les D3E, valorisés, recyclés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui puisque ça partait en encombrant pour la majorité. La gestion des déchets, c'est quasiment 20 ans maintenant d'évolution où tous les ans il y a des nouvelles choses qui se passent et en termes de filière. Pour les plastiques, par exemple, la première filière qui s'est structurée concernant les ménages, c'est la filière des emballages plastiques qui ne concerne que les bouteilles et flacons plastiques. Pour différentes raisons. Un, parce que c'est assez facile à trier. On a 3-4 grandes catégories de plastiques et on est capable de les trier, de les repérer manuellement, visuellement. Et aujourd'hui, il y a des machines qui sont capables de faire ça. Par rapport à d'autres emballages comme le pot de yaourt, le pot de crème, la barquette d'œufs, etc., on a des difficultés à les trier par rapport à leur taille. Le plastique, c'est un emballage qui est léger et du coup, il faut avoir des quantités suffisamment importantes pour que ça vaille le coup de le valoriser. L'exemple du polystyrène, c'est plein d'air. Donc si vous remplissez un camion de polystyrène, vous allez avoir très vite du volume, votre camion va être très vite plein, et en tonnage, vous n'allez rien avoir du tout.
Vous pouvez le comprimer quand même.
On peut le comprimer, effectivement. Mais n'empêche que même avec des très bonnes presses, avant d'avoir du tonnage, on va pouvoir en avoir du polystyrène. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui a le process pour valoriser et recycler ce polystyrène-là. Elle se trouve dans le Nord-Est. Ça veut dire que du coup, on ferait partir du polystyrène du sud-ouest, traverser toute la France, mettre des camions sur les routes pour transporter de l'air, grosso modo, pour aller valoriser ce déchet. Donc en fait, il y a des compromis à trouver entre la nature du déchet, le nombre d'entreprises qui valorisent ce type de déchet pour que ça soit intéressant aussi de leur point de vue. Et du coup, aujourd'hui, voilà, les déchets, ils se baladent pour partie. Et dans certains cas, ça n'est pas encore intéressant de les valoriser. Ça ne veut pas dire que ça ne le deviendra pas. Et au niveau national, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Valorplast, qui est l'organisme qui s'occupe du recyclage des plastiques, réfléchit très sérieusement en partartenariat avec Eco-Emballage, qui est l'éco-organisme qui gère la collecte de la contribution des metteurs sur le marché des emballages. Donc le fameux point vert que vous avez sur vos bouteilles et tous vos emballages. Valeur Plast et Eco-Emballage sont en train de réfléchir à élargir les consignes de tri pour les emballages plastiques. Donc rien ne dit que dans 2-3 ans, on ne vous dira pas bah, finalement votre sac en plastique, votre film en plastique, la boîte en plastique de votre gâteau, etc. Vous pouvez les mettre dans la colonne de tri du plastique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas demain.
D'autant que dans certains petits villages, il n'y a pas toujours les containers adaptés pour récupérer certains types de déchets. Là où j'habite, on ne peut pas mettre, par exemple, le Tetra Pak, ça n'existe pas. Ou alors je suis un bon citoyen et je le mets de côté et je vais trouver une autre borne. Mais est-ce que justement les communes ont-elles l'obligation de mettre à la disposition des citoyens les conteneurs ad hoc ?
L'obligation qui est faite aux communes, c'est de collecter et de traiter les déchets produits par les ménages. Aujourd'hui, les communes ont transféré cette compétence aux intercommunalités. Et la CCVD a fait le choix, mais ça c'est un choix qui est propre à chaque collectivité, d'implanter un point propre par commune au minimum et d'avoir un ratio qui est d'environ un point propre pour 250 habitants. Sachant qu'au niveau national, le conseil il est d'un point propre pour 500 habitants environ, avec si possible un point propre par commune. C'est-à-dire que vous avez une commune de 100 habitants, on est en dessous du ratio de 250, mais on lui met quand même un point propre pour qu'à minima, dans chaque commune, on ait un point propre avec les trois flux. Voilà. Par contre, les bacs ordures ménagères, c'est pareil. Il y en a de dispersés sur tout le territoire puisqu'on est en point de regroupement. Mais par contre, les gens ont à se déplacer pour ce qui concerne les déchetteries, qui sont des déchets plus occasionnels malgré tout. Vous ne changez pas votre matelas tous les jours, je suppose.
Donc tout à l'heure, vous avez abordé la question du fait que certains matériaux doivent voyager parce qu'on ne peut pas les valoriser sur place. Est-ce qu'il y a des pans de l'industrie de la valorisation qui n'existent pas encore en France ?
Il y a un certain nombre de déchets qui sont produits à la fois par les ménages, à la fois par les professionnels. Et c'est le cas des déchets d'équipement électrique et électronique qu'on appelle plus couramment les D3E. Les éco-organismes qui gèrent aujourd'hui les D3E produits par les ménages garantissent que ces D3E sont démantelés et traités majoritairement en Europe et de toute façon dans des conditions décentes, correctes, sans travail d'enfant. Par contre, on a un certain nombre de D3E issus, a priori, du monde de professionnels qui part en Asie, effectivement.
Donc la CCVD a compétence de collecte des déchets ménagers et non pas des industriels, c'est bien cela ?
Tout à fait. Alors une commune à la base, mais aujourd'hui les intercommunalités, puisqu'elles ont récupéré cette compétence-là, enfin elle leur a été transférée, a la compétence de collecte et de traitement des déchets produits par les ménages et éventuellement des déchets assimilés, c'est-à-dire des déchets qui seraient produits par des professionnels, des producteurs qui ne sont pas des ménages, donc des professionnels, des administrations, des agriculteurs, à condition que ces déchets soient de même nature que les déchets produits par les ménages. Donc c'est par exemple les films plastiques, les gros cartons, voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout producteur, y compris l'habitant en fait, est responsable réglementairement des déchets qu'il produit et de l'élimination des déchets qu'il produit. Ça veut dire qu'en tant qu'industriel, en tant que professionnel, vous avez l'obligation réglementaire de mettre en place d'adhérer à un système ou de trouver le prestataire qui est capable de vous collecter et de vous traiter les déchets selon la réglementation. Ce qui veut dire du coup qu'en tant qu'habitant, on a l'obligation également d'utiliser les contenants et les filières proposées par la collectivité pour éliminer ces déchets.
Est-ce qu'ils le font, les industriels en question ?
Pour partie, oui. Vous avez les grands groupes qui s'occupent de la gestion des déchets ont des bennes 30 mètres cubes dans plein d'entreprises du territoire. Mais les collectivités pallient aussi à cette responsabilité-là, dans le sens où aujourd'hui, dans nos déchetteries, nous avons des professionnels qui apportent des déchets. Par contre, ils sont discriminés par un système de cartes et de comptabilisation du déchet apporté. Et derrière, on a un barème qui est voté par le conseil communautaire pour définir des tarifs en fonction du volume de déchets apportés à partir du moment où vous êtes professionnel. Puisque le budget qui permet de mettre en place la collecte et le traitement des déchets et de financer du coup ce service pour les habitants est un budget qui dépend de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est assis sur le foncier bâti, et qu'il n'y a pas de raison que les habitants payent pour l'élimination de déchets produits par des professionnels alors qu'ils ont cette responsabilité-là. Et que dans certains cas, c'est pas vrai pour tous, mais dans certains cas, notamment les professionnels du bâtiment, ils ont la possibilité, et ils le font de plus en plus, de facturer le coût d'enlèvement et de traitement des déchets en tant que prestation quand ils interviennent chez des particuliers. Ça voudrait dire, au bout du compte, quand c'est fait, que le particulier il paye deux fois. Donc c'est pas normal.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une légère baisse des tonnages collectés. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique d'une évolution? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le recyclage sélectif est réellement entré dans les mœurs chez les citoyens?
Ça sert de trier, c'est toujours important de trier. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que vraiment, si on ne triait plus nos déchets, alors un, on ne répondrait pas aux obligations réglementaires qui sont aussi une volonté de l'Europe. Deux, on ne répondrait pas à une obligation environnementale qui est de limiter la quantité de déchets qu'on produit et d'essayer de les valoriser au maximum pour fabriquer des nouveaux produits, les réparer, les remettre en circulation d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous forme de matières premières ou d'objets qui auraient une seconde vie. Et trois, financièrement parlant, on aurait des budgets qui seraient beaucoup plus importants et du coup un prélèvement de l'impôt qui serait beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Puisque quand on parle ordures ménagères, la filière aujourd'hui qui existe pour l'ordure ménagère, c'est l'incinération ou le centre de stockage. Alors au niveau du département de la Drôme, c'est des centres de stockage, il n'y a pas d'usine d'incinération des ordures ménagères. Ces coûts de traitement-là sont beaucoup plus importants que ne le sont les coûts induits par la mise en place de collectes spécifiques et de collectes sélectives des déchets.
Vous savez bien, quand on ouvre une poubelle des fois qui est censée être réservée au carton, on trouve des sacs non triés. Est-ce que c'est respecté le tri de nos jours? Est-ce que vraiment il y a une prise de conscience citoyenne de la nécessité de trier?
Je pense que la prise de conscience, elle est de plus en plus présente, elle existe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'erreurs, qu'on est à 100% de qualité. Bien sûr qu'on peut encore progresser, bien sûr qu'il faut continuer de réexpliquer, de faire en sorte que les gens trient de mieux en mieux. Oui, dans les colonnes de tri, on continue d'avoir des erreurs. Intentionné, non intentionné. Il y a même des gens qui pensent qu'ils veulent tellement bien trier que du coup ils font des erreurs parce qu'ils mettent des objets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Mais voilà, ça part d'une bonne intention. Oui, il y a des habitants qui n'en ont rien à faire du tri et qui mettent dans les ordures ménagères des emballages qui pourraient être triés, des déchets qui devraient se retrouver en déchetterie. Mais le tri fait quand même partie des gestes et des habitudes.
Quelle est votre actualité? Sur quel domaine travaillez-vous en ce moment à la CCVD concernant la collecte des déchets?
On a un gros dossier qui est un changement de mode de collecte des ordures ménagères, puisque on collecte aujourd'hui les ordures ménagères dans des bacs 660 litres en point de regroupement et qu'on est en train d'équiper une partie du territoire de conteneurs semi-enterrés, qui sont des conteneurs dont les deux tiers sont enterrés dans le sol, qui sont des installations fixes du coup, qui ont un volume de 5 mètres cubes. Donc vous mettez à peu près 7 bacs 660 litres dans un conteneur semi-enterré, qui seront collectés par les mêmes camions que la collecte sélective. Donc l'objectif, c'est aussi d'optimiser l'utilisation du matériel, d'optimiser nos tournées, de permettre dans certaines zones de collecter en hiver peut-être que tous les 10 jours au lieu d'une fois par semaine, d'avoir un volume de stockage disponible plus conséquent pour les habitants pour que le service soit toujours rendu, c'est-à-dire à n'importe quel moment j'ai besoin de déposer un déchet, j'ai du volume disponible, que ce soit en collecte sélective, en ordure ménagère, et je ne me trouve pas face à un bac qui dysfonctionne parce qu'il est plein et que du coup je vais déposer le déchet à côté, donc ça crée des nuisances notamment visuelles mais qui sont non négligeables. Quand on travaille avec des camions, pour être le plus efficace possible, il faut collecter le plus de tonnage possible en faisant le moins de kilomètres possible. Les conteneurs semi-enterrés devraient permettre d'arriver à améliorer encore ce paramètre-là. La deuxième chose, c'est de travailler en partenariat avec nos agences sur ce qu'on appelle la conduite souple et rationnelle. Donc on a en interne un formateur poids lourd sur ces questions-là. Et donc chaque agent du service est passé en formation sur les questions de conduite souple et rationnelle. L'objectif étant la sécurité, évidemment. Donc retravailler sur le code de la route, les mauvaises habitudes qu'on prend tous quand on conduit. Donc la sécurité de nos agents, des usagers, évidemment, de la route. C'est de travailler sur une conduite souple, donc plus d'anticipation. Du coup, un meilleur ratio en termes de consommation de carburant également. Donc d'arriver à ne consommer que ce dont on a vraiment besoin en termes de carburant. Ça permet aussi de travailler sur la limitation de l'usure prématurée du matériel. Voilà, puisque plus on anticipe, moins on est dans les accélérations brutales, les freinages brutaux qui ont tendance à user le matériel, sachant qu'en plus, Les camions d'ordures ménagères, de collecte des ordures ménagères, sont déjà à la base des camions qui ont une usure un peu plus importante qu'un camion qui fait la route, puisqu'ils sont souvent en train de s'arrêter et de redémarrer. Ça nous permet du coup aussi d'avoir un vrai accompagnement des nouveaux chauffeurs.
Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ?
Oui, s'il y a une chose à retenir, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc attelons-nous tous à notre niveau à essayer de produire moins de déchets. Et une fois qu'on a produit des déchets, parce qu'immanquablement, de toute façon, on en produit, eh ben, essayons de les envoyer dans la bonne filière. Et comme on est dans une zone rurale, si on a la possibilité de valoriser nos déchets organiques et de faire chez soi, parce que ça, on n'en a pas parlé du tout, mais du compostage individuel, c'est toujours ça de moins qui sera collecté et qui partira aujourd'hui en centre de stockage et demain en centre de valorisation des déchets à étoiles, où il sera transformé en compost. Donc c'est le moindre mal, mais je vous rappelle que les déchets organiques, c'est 80% d'eau, autant les traiter au fond de son jardin.
Ça veut dire aussi acheter plutôt des produits locaux sans cellophane.
Par exemple.
Marie Tizi, merci pour avoir répondu à toutes
avec
nos questions.
Plaisir.
Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, vous aussi.
Voilà, c'était un long reportage. Vous avez sans doute des réactions ?
Bien sûr. Là, on s'aperçoit que gérer les ordures ménagères, c'est quand même pas facile, c'est pas simple. Et moi, je partage totalement les propos de cette dame parce que les déchets, c'est un problème pour tout le monde. Tout le monde doit se mettre ça dans la tête qu'il faut trier. Et effectivement, nous, en plus, sur notre territoire, on a énormément de routes. On a nos camions qui sont tous les jours sur la route et ça nous coûte beaucoup plus que la Basse-Vallée.
Il y a toujours une balance entre ce que ça nous coûte réellement, mais ce que ça nous rapporte par ailleurs parce que c'est trié et revalorisé peut-être.
Alors c'est important de mettre peut-être quelques chiffres sur ce qui a déjà été dit. Par exemple, si vous amenez vos déchets dans une benne classique d'encombrant ou dans les bacs à ordures ménagères, vous allez avoir un coût de traitement de ces déchets qui, selon les collectivités, va varier entre 220 et 290 euros la tonne. C'est-à-dire que chaque kilo que vous jetez coûte 22 à 29 centimes, ce qui n'est pas négligeable. Si vous amenez vos déchets dans des colonnes de tri, plastique, carton, verre, en moyenne, ça va être aux alentours de 120 euros la tonne. Et c'est à peu près ce coût-là qu'on va retrouver, en moyenne, pour des déchets que vous amenez dans une déchetterie. Donc vous voyez que le rapport est de 1 à 2. Mieux encore, et Marie Tizi l'a souligné, si vous compostez au fond de votre jardin, le coût pour la collectivité du kilo de déchets que vous allez mettre dans votre compost, il est de 0 euro. Donc on a bien évidemment des choix à faire en tant que citoyen au moment où on jette nos déchets et ces choix impactent sur le coût de traitement et sur l'environnement. Et on a bien évidemment en amont, et ça aussi ça a déjà été dit, il faut le souligner, des choix à faire en tant que consommateur. Moins on achète de produits qui génèrent des déchets, moins on aura de déchets à traiter et moins ça coûtera à la collectivité et donc aux contribuables. Des évidences qu'il est toujours bon de rappeler.
On va aérer un petit peu cette émission avec Out of Steel de Gigi Kale, extrait de son disque de 2007, Rewind. Thank you. Alors moi, je voudrais revenir sur l'obligation ou non des communes de mettre sur leurs points propres toutes les colonnes là. Les communes ne sont pas tenues de mettre toutes les colonnes, alors
Non, parce que les communes sont responsables de l'emplacement où sont disposés les bacs et les colonnes. Et la communauté de communes gère le fonctionnement. Et bon, un exemple tout simple, hein, on ne va pas mettre une benne à verre à Auslon. Parce qu'on sait que le gars qui, avec son camion, ramasse les collectes, les bennes à verre, il va monter une fois tous les 3 ans. Donc pour nous, ce n'est pas bon. Il vaut mieux essayer de regrouper dans la vallée de la Rouanne, parce qu'on sait que les gens de la vallée de la Rouanne bougent avec leur voiture et forcément, ils s'arrêtent et ils font leur tri comme ça. Et c'est vrai que sur le territoire, on a beaucoup de demandes. Donc en disant, dans les villages, nous, notre point poubelle n'est pas complet. Mais pour nous, ça a un coût. On essaye de gérer au maximum.
Ce travail est en perpétuelle évolution, puisque initialement toutes les communes avaient sur le DIWA papier et verre. On a vu que dans le cas d'Auslon, par exemple, il y a des évolutions quand on peut améliorer le service sans, en termes de coût et d'efficacité, sans pénaliser l'usager qui descend régulièrement, on essaye de le faire. Donc aujourd'hui, un certain nombre de communes regroupent leurs bacs. Et à cette occasion, les kilomètres qu'on va gagner pour aller collecter moins de bacs, c'est en termes de temps bien plus efficace que collecter 7 bacs différents. Outre la distance, il y a aussi le nombre d'arrêts. Et c'est le nombre d'arrêts qui use le camion, qui prend du temps pour les agents, etc. Et ça, ça permet de développer en parallèle ou d'augmenter le service des bacs de tri ou des colonnes de tri. C'est-à-dire que ces communes qui ont mis en place des points propres regroupés bénéficient progressivement de l'arrivée des colonnes de tri. Ce qu'on gagne d'un côté, on peut en partie le redonner de l'autre.
Alors on parle de gros sous. Qu'est-ce que ça représente comme budget pour la communauté de communes du DIWA, le fait de gérer des déchets pour à peu près 12 000 habitants alors?
Oui, ça se chiffre. Le coût du budget, il est d'1 500 000 euros environ. Mais par habitant, ça va dépendre du territoire dans lequel vous êtes. Parce que dans le DIWA, vous avez 11 à 12 000 habitants à l'année. Mais vous avez quasiment autant de résidences secondaires que de résidences principales. Et en été, certaines communes voient multiplier par 10 le nombre d'habitants. Donc si vous êtes une zone touristique, le coût par habitant ou le nombre de kilos par habitant n'a pas du tout la même valeur que si vous n'êtes pas une zone touristique. Donc donner des chiffres, mais il faut les relativiser toujours.
Un petit rappel, sur le territoire de la communauté de communes du DIWA, on a plus de 1000 bacs de 660 litres. Vous voyez quand même la proportion.
Il y a combien de camions qui se chargent de les collecter au fur et à mesure?
Alors l'été, il y en a 3. Le reste de l'année, il n'y en a que 2. 2, plus on a un gros porteur, camion remorque, qui lui, qui est équipé d'une grue, et qui lève les colonnes, qui les vide, donc il les transfère jusqu'à la déchetterie de Die. La déchetterie de Die est un tri qui s'effectue ou un compactage. Et après, c'est évacué. Actuellement, ça va sur Châteauzange-le-Goubet. Et à terme, comme le disait la dame, ça va partir sur Étoile. Où le Citrade monte pour la Drôme, dont la communauté de communes a donné compétence, leur a donné plein pouvoir. Et ils effectuent 3 centres de valorisation, dont un qui sera pour nous à Étoile. Donc on va gagner un petit peu en kilomètres.
Si on reprend, l'usager a le choix de ce qu'il achète et donc de ce qu'il ne jette pas ou de ce qu'il jette. Il a le choix de bien trier ou de ne pas bien trier. La collectivité locale, la communauté de communes, a le choix d'optimiser ses tournées, ça a été dit tout à l'heure, limiter le nombre de kilomètres parcourus, donc avoir des points de regroupement par exemple, de limiter ses fréquences. C'est la deuxième voie d'économie qu'on peut avoir sur les tournées. Et derrière, on est tous au même point sur les coûts d'évacuation. Le prix au kilomètre évacué, ça dépend du prix de l'essence, des kilomètres parcourus. Donc on n'est pas tous égaux devant ça dans les 4 communautés de communes de la vallée, puisqu'on est plus ou moins loin des centres d'évacuation et de tri. Et par contre, on est tous tributaires d'un même tarif de traitement qui est celui de notre syndicat. Et ces tarifs de traitement, du fait de l'augmentation des normes d'une part, des taxes d'autre part, et des coûts de process pour finir, c'est un tarif qui augmente à vitesse très rapide ces dernières années, alors que les autres coûts sont plutôt maîtrisés dans nos collectivités.
Juste une petite parenthèse, parce que c'était abordé très brièvement et c'est un de mes dadas. La communauté de communes du DIWA a aussi un dernier petit point de liberté. Elle pourrait aussi choisir d'investir dans des cuves de méthanisation. Ce n'est pas à l'ordre du jour?
Non, pas à ma connaissance. Au niveau technique, je ne le préconise pas trop pour l'instant, sauf à ce qu'on nous prouve que des petites unités aujourd'hui peuvent se développer. Alors, je sais qu'il y a des expérimentations en Rhône-Alpes à ce niveau-là. Ce qu'il faut regarder sur la méthanisation des déchets, c'est les kilomètres qu'on leur fait parcourir, et ce sont des déchets compostables. Et en général, chez nous, on peut composter nos déchets sans les déplacer.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Soutenue par BioVallée.
Je vous propose maintenant d'écouter un deuxième interview. Bon, ils ont travaillé avec vous, c'est le centre du Martouret. Ils ont travaillé avec vous, avec la communauté de communes, pour monter tout un process de recyclage de leurs déchets, que ce soit en impliquant et les salariés et leurs résidents.
Voilà, je suis au centre du Martouret en compagnie de Patricia, directrice du centre, et puis Bénédicte, membre du conseil d'administration de l'association dont j'ai oublié le nom.
Le Martouret.
Le Martouret, très bien. Compliqué. Et donc on est ensemble pour aborder plus particulièrement la gestion des déchets sur ce centre qui tourne toute l'année et avec beaucoup d'enfants à la fois en loisirs et en colonie. Donc voilà, est-ce que vous voulez brièvement un peu nous rappeler l'activité peut-être, Patricia?
Alors nous on est un centre d'accueil, on accueille effectivement les séjours colonies pour toutes les vacances scolaires, mais maintenant depuis la création de l'association en 2005, on a aussi valorisé l'accueil de groupe, des classes transplantées liées à l'agrément éducation nationale, mais aussi l'accueil de groupe d'adultes, des séminaires de formation, des regroupements familiaux, des comités d'entreprise qui se déplacent pour passer un week-end sur la structure. On est sur une démarche de centre d'accueil ouvert à tous toute l'année.
Et pour une capacité d'accueil maximale?
On est à 215 l'hiver, 325 l'été. On représente 33 000 journées par an.
Tout âge confondu, et donc en dehors des activités, il y a quand même une gestion interne assez particulière. Et là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'était la gestion des déchets que tu m'as dit couplé avec un projet global.
En fait, l'association, à sa création, a posé des principes de fonctionnement pour un peu cadrer, au-delà de l'activité, des orientations associatives de l'équipe, quoi. Et il y avait plusieurs principes, quatre, dont deux qui nous ont amené effectivement à changer le fonctionnement de la structure. Un qui était être en lien avec le territoire et ses sources économiques. Et un autre qui était être en lien avec les actions éco-responsables que chaque citoyen était amené à mettre en place dans sa vie de tous les jours, quoi. Donc nous, on a essayé de remettre ça en place sur la structure autour d'une gouvernance associative qui a fait un choix politique de mettre en place un SMI. Donc SMI, c'est un centre de management intégré, donc c'est un grand mot, mais voilà, c'est un
système de management.
Système de management intégré, voilà. Ça regroupe différentes valeurs d'activité, dont les déchets, mais aussi l'approvisionnement local. Au niveau de l'alimentation, on essaie, nous, de faire nos achats sur le local, en bio, si on peut, en privilégiant effectivement les éleveurs du territoire.
Éleveurs et producteurs.
Voilà, éleveurs et producteurs du territoire.
Le centre de loisirs intègre des notions de développement durable et de gestion locale, d'écologie même.
Le système de management intégré, c'est effectivement une sécurité à l'emploi pour les salariés, mais une qualité d'accueil qui soit proche de la réalité de l'activité, mais aussi d'un territoire. Et effectivement, nous,
c'est respectueux de l'environnement, de l'environnement du territoire.
Donc ça passait effectivement sur un territoire agricole par valoriser une source économique qui était l'agriculture, quoi. Donc en achetant directement chez les éleveurs. Donc,
puis on peut rappeler peut-être aussi la gestion de l'espace en lui-même, si c'est une quarantaine d'hectares.
Voilà. Avec... Tout exploité par la structure, hein, par deux hommes d'entretien. On fait nous-mêmes l'exploitation du domaine, quoi, 40 hectares de pleine nature. Actuellement, on fait nos foins pour nos chevaux. On essaie quand même de valoriser ce qu'il y a sur le site, hein, de préserver ce site naturel, parce que c'est important. Si on veut continuer à travailler avec un outil pareil, il faut le préserver. Mmh. Donc ça, c'est aussi dans les actions de développement durable que les enfants font. Hein, donc quand ils vont en randonnée ou quand ils vont sur le site en jeu, on leur demande de faire attention au site naturel, quoi. Et puis effectivement, sur l'alimentation, on revient aux déchets pour parler de ça. Donc on a mis en place avec le CFEP Alvalentin, Marc Tardy, qui a suivi ça depuis 2 ans. On a mis ça en place avec l'équipe, parce que ça ne pouvait pas être mis en place si l'équipe n'était pas volontaire. Parce que effectivement, faire le tri des déchets à table, que ce soit du déchet recyclable de tous les jours, le plastique, le verre, tout ça, mais il y a aussi le déchet organique. Et là, ça demande plus de travail. On a dû adapter notre fonctionnement.
On parle de compost, hein.
On parle de compost, hein, ça, voilà. C'est le tri déchet organique, c'est le compost. Donc à table, on a changé de fonctionnement. Donc on a réduit tous les sachets individuels. Donc tout ce qui est mayonnaise, ketchup, tout ce qui est sucre, confiture, on a enlevé les doses individuelles, on est passé à du collectif pour réduire nos déchets de table, tout ce qui est papier, plastique. Et puis on fait aussi en cuisine le tri des déchets alimentaires. Donc on récupère tout ce qui est déchets crus qu'on met en compost sur la structure, puisqu'on a aussi mis en place en parallèle un jardin que les enfants exploitent tout au long de l'été, au printemps, voilà.
En plus, ça couple avec d'autres activités de loisirs ou d'éducation populaire.
Oui, complètement. On a mis en place un stage qui s'appelle Cuisiner en herbe, où les enfants, effectivement, font le jardin, vont faire leurs courses, soit à la Carline, soit au marché à Die, et viennent travailler leurs produits après en cuisine avec notre chef. Tout au long des séjours de vacances scolaires.
L'idée aussi dans la gestion de ces déchets, c'est vraiment d'avoir un modèle
éducatif par rapport à toutes les personnes qui sont accueillies, mais spécifiquement par rapport aux enfants. C'est vrai que dans la gestion des déchets, c'est aussi leur apprendre justement ce que c'est que le compost quand on parle de jardinage. Et du coup, ils ont une espèce d'initiation ou un éveil à ce système-là, quoi. Je crois que c'est aussi le côté éducatif qui nous paraissait important et qu'on veut valoriser au Martouret. En fait, c'est dans la philosophie du centre, hein, de toute façon. On est complètement là-dedans,
tout dans l'accueil. Parce que sur l'hébergement, effectivement, on leur a mis des petits messages visuels pour éteindre la lumière, couper l'eau, voilà, faire attention déjà dans leur chambre à la manière dont ils gèrent leurs déchets personnels. Quand ils viennent en restauration, c'est un peu plus cadré, puisqu'on a les équipes techniques qui ont été formées. On a fait 3 formations CFPP avec le CFPP Alvalentin, justement, à comment, déjà nous, apprendre à trier, parce qu'on a forcément des réflexes, mais des fois, ce n'est pas les bons. Donc, on a formé le personnel à un meilleur tri, à des meilleures actions aussi pour initier nos résidents. C'est vrai qu'on a des enfants qu'on arrive facilement à discipliner, les adultes, c'est un peu plus dur. Quand c'est les enfants, on arrive à leur passer le message à travers des jeux aussi qu'on met en place avec les équipes d'animateurs. Les adultes, ça appelle à leurs propres valeurs citoyennes. Et on n'a pas forcément tout le temps des adultes qui sont initiés à ça, quoi. Donc c'est passé dans notre règlement du centre. Ça fait vraiment partie de la vie du centre et du travail des salariés. Parce que ça, sans cooptation du personnel, ça n'aurait pas pu se mettre en place. Et ça a été un gros travail du conseil d'administration, c'est ne pas le faire de force passer aux salariés, mais le faire vraiment de manière à ce que ça soit volontaire aussi d'équipe salariée, quoi.
Du coup, on entend bien deux choses. Il y a l'aspect éducatif de cette nouvelle démarche et puis la difficulté en fait de la mettre en place. Est-ce que cette difficulté correspond aussi à une logistique plus importante? Les salariés, c'est pas quelque chose d'un peu plus simple?
En fait, c'est très différent. Donc ça veut dire que tous les modèles qu'on a eu l'habitude d'avoir dans la façon de travailler et tout, tout ça, ça a dû être pensé complètement. C'est là où ça a été compliqué.
Est-ce qu'on peut détailler un peu, par exemple? Qu'est-ce qui change dans la cuisine?
Simplement, nous, sur la structure, on a 3 poubelles à tri sélectif. Aujourd'hui, on s'en sert largement pour les résidents. Mais aujourd'hui, quand vous êtes livré en carton, nous, en 2 jours, on peut remplir une benne à carton. Donc aujourd'hui, le décartonnage est fait dans un garage. Et 3 fois par semaine, on va à la déchetterie. On a augmenté un peu la masse de travail quand même pour certains postes.
D'accord.
Les hommes d'entretien ont vu leur travail augmenter. Voilà, boîte de conserve.
C'est bien la structure qui a fait cet investissement-là et pas la communauté de communes, par exemple, qui viendrait.
On a déjà eu, là, par la communauté de communes, 3 bennes tri sélectives. C'est pas donné à toutes les structures. On a eu la chance de pouvoir bénéficier de ces bennes-là et elles nous servent pour le verre. Quand on a, tout en mois de septembre, 300 étudiants par week-end, voilà, ces bennes-là sont très utiles parce qu'on peut les amener à leur faire faire leur propre tri. Mais après, dans notre fonctionnement de tous les jours, la structure est obligée de faire un deuxième tri. On a dû mettre en place un deuxième endroit de tri parce qu'effectivement, quand vous avez des boîtes de conserve, elles ne rentrent pas dans les bennes de tri. Puis même les serveuses qui étaient habituées à mettre tout à la poubelle en tout venant, aujourd'hui, elles doivent faire 3 poubelles différentes. Et puis après, aller aux bennes et jeter elles-mêmes. Donc ça a forcément modifié les tâches de chacun, le temps de travail de chacun, et ça c'est un investissement que l'association a fait par ses propres moyens.
Puis le compostage aussi, c'est-à-dire que tous les déchets fermentescibles sont recyclés pour mettre en place un compost. Bon, donc ça aussi, c'est pas très usuel, surtout en collectivité, quoi. Donc c'est sûr qu'en termes de manipulation au niveau de la cuisine, forcément ça a changé des choses. C'est plutôt plus lourd, il faut surtout repenser les gestes. C'est ça qui est compliqué à mettre en place, et ça se fait pas du jour au lendemain. Là, en ce moment, on va expérimenter la récupération des déchets fermentescibles à partir des repas. Jusqu'à présent, on ne faisait que dans la préparation. Tous ces déchets étaient récupérés qu'au moment de la préparation, donc en cuisine. Maintenant, on va essayer de récupérer les restes. Ça implique encore plus, quoi. D'abord les résidents, les enfants, les groupes, etc. Et puis le service, en plus du personnel de cuisine, quoi. Donc c'est vrai que dans la réorganisation, et puis bon après dans le matériel, parce qu'on ne récupère pas dans les mêmes poubelles, on ne récupère pas de la même façon, il faut que le trajet soit court entre la récupération et le compostage, enfin bon.
Pas que ça soit lourd.
Il y a des questions d'hygiène aussi qui sont très importantes, on ne peut pas stocker.
C'est vrai que là on avait fait un gros travail sur, je le répète, parce que Marc a un peu travaillé dans l'ombre, mais Marc Tardy nous a aidés sur la première phase.
Heureusement qu'on a eu Valentin.
Changer nos gestes, changer nos gestes au niveau du poste. Comment aussi l'amener au niveau politique aussi, parce que sur un territoire, ça ne peut pas se faire. On aurait pu commencer tout de suite sur un déchet à table, on n'a pas pu le faire, parce qu'au niveau politique, ça ne s'est pas fait comme on aurait voulu. On a eu un peu des difficultés, parce que ça aussi engendre des frais. Voilà, si on passe à table tous les jours, sur toute l'année, on est quasiment à peu près à 16 tonnes par an. La première phase du projet avait été étudiée en récupération directement par un agriculteur qui aurait pu utiliser tout ça. Il y a le transport. Qui finance le transport? Et là, on a été heurté à un problème, c'est que Aujourd'hui même, si ça va réduire nos déchets, c'est pas assez important pour réduire des frais à la communauté de communes, par exemple, qui, eux, vont continuer à passer chez nous. Et du coup, qui finance le trajet? Donc ça, ça a été une grande question. Et effectivement, on a dû revoir notre copie et faire un plus petit projet, une petite expérimentation en cuisine. Et là, on va passer à une fois par semaine à table pour essayer de quantifier un peu le volume de déchets que ça va engendrer. Et puis, comment on va le gérer? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on va arriver à gérer le volume de déchets que ça peut engendrer de faire ça tout le temps, quoi.
Ça veut dire aussi mêler les déchets fermentescibles de la cuisine et des repas à des déchets verts, soit récupérés sur le centre, mais surtout récupérés en déchetterie, pour pouvoir mélanger et avoir un compost. Ça, c'est une grosse manipulation quand même. Ouais. Si on n'est pas aidé davantage financièrement et politiquement, on va dire, je ne sais pas si on ira tout à fait jusqu'au bout. Là, de toute façon, on ne tournera pas en arrière par rapport aux déchets de cuisine. Mais au niveau des repas, est-ce qu'on arrivera vraiment rapidement à pouvoir récupérer tous les déchets fermentescibles des repas sur du compostage? Pour le moment, c'est un point d'interrogation. On a besoin d'être soutenu davantage parce que c'est vrai que, de toute façon, au moins sur la mise en route, sur les expérimentations, il y a besoin d'aide, quoi, parce que c'est énorme. Et encore, nous, on n'a pas, comme le lycée a énormément de mal à démarrer, mais on comprend. C'est qu'en plus, ils n'ont pas la superficie ou l'environnement idéal. Nous, quelque part, on a presque l'environnement idéal, quoi.
Vous avez l'espace vert au fond pour être.
Voilà, au fond, oui, mais justement, non, faut pas que c'est... au départ, pas que ce soit on l'avait prévu loin. Au fond. Ouais. Non, il faut que ce soit à côté des cuisines. Et en même temps, il ne faut pas que c'est d'odeur. Et en même temps, il ne faut pas que les enfants aillent jouer dedans. Enfin bon. Mais en même temps, il faut que ce soit près des cuisines. Sinon, c'est ingérable et ça ne sera jamais fait. Bon, on a trouvé le lieu, tout près des cuisines, à côté du jardin.
C'est vrai que si au niveau politique associatif, on n'avait pas cette démarche, ça a eu des frais. Parce que les gens qui sont partis en formation, dans le financement qu'on a eu le CFPPA, il y a une partie prise en charge par la région et par le CETRAD. Que bénéficie le CFPPA? Donc nous, on a été un peu une aide sur la promotion, mais les formations sont prises en charge par notre budget.
Oui, ça paraît incroyable, mais il y a besoin de formation pour le personnel. On est vraiment obligé de passer par des journées de formation qui sont pas que de la formation, en fait, c'est de la réflexion de groupe, se dire, il faut, enfin, des prises de conscience et voir justement comment on va s'y prendre. Quoi.
Puis comment transmettre, parce que quand on a 120 salariés l'été, qui sont là que pour faire une saison, si la base des salariés permanents n'a pas un peu une pédagogie à transmission, ça ne marche pas. Quoi.
Ouais, et puis on peut s'imaginer que les gens de passage en ont un peu moins à faire. Ouais.
Et puis il faut que tous les personnels qui passent ici, même saisonniers, même pour 3 semaines, 1 mois, il faut qu'ils soient capables de pouvoir l'expliquer aux enfants, de pouvoir l'expliquer aux résidents, parce que ça fait partie aussi de la démarche, quoi. C'est important, c'est toujours dans le côté pédagogique, éducatif.
J'ai entendu un aspect quand même assez intéressant. Il y a eu développement de la masse salariale. Alors, très clairement, la gestion, on va dire, écologique ou développement durable des déchets développe l'emploi. Et c'est un peu aussi quelque chose qui est défendable
c'est pas
politiquement.
Ça.
Non.
On a eu plus de travail. Ça veut pas dire qu'on a eu plus de masse qu'on a embauché pour ça. Quoi.
D'accord.
On a dû prendre encore dans le potentiel humain de la structure. Parce que financièrement, on n'a pas de fonds qui nous financent des heures en plus. Quoi. Mmh. Donc on a aussi, encore ce que disait Bénédicte, remodifié les emplois du temps, rajouter des heures, on a essayé de voir comment on pouvait limiter d'autres tâches. Donc c'est vraiment une coordination très très fine, hein, parce qu'avec la même masse humaine, on fait plus de travail. Sans arriver dans des aberrations après de surtravail ou de non-respect des horaires, non, au contraire, il a fallu qu'on se réorganise complètement sur la structure.
On ne peut pas imaginer que la gestion des déchets sur une structure comme ça crée de l'emploi en plus. L'obligation, c'est de repenser la façon de travailler avec une gestion des déchets intégrée, intelligente, tenant compte de l'environnement. C'est ça qui est important. Et bon, après, la masse salariale a augmenté, mais parce que le centre, l'activité s'est développée, quoi.
Est-ce qu'on peut imaginer que c'est pour l'instant cette gestion-là, cette nouveauté qui fait que ça demande plus de temps de travail ou du moins une restructuration du temps de travail et qu'à terme, ce soit quand même plus simple?
Là, actuellement, c'est une expérience d'association d'une seule structure. Si après, on prend sa mutualisation de plusieurs structures avec des transports qui sont créés sur un projet à plus grande échelle, de territoire, là, on est sur un projet vraiment lié à
Ce qu'on voudrait, c'est que ça devienne vraiment un projet de territoire. Ouais. Parce que ça, on l'a d'ailleurs réfléchi avec Philippe Méjean de la communauté des communes. C'est vrai que pour que ça fonctionne bien dans un centre tel que le nôtre, il faut que ça devienne un projet de territoire, un projet politique de territoire.
Vous parliez des cartons tout à l'heure, il faudrait 3-4 structures qui feraient la même chose, il y aurait un vrai transport par exemple.
Voilà, oui, et pareil pour les compostages des déchets fermentescibles, tout à fait.
Et là, c'est long.
Et oui.
Mais c'est vrai que moi je pense qu'une fois que tout ça sera vraiment mis en place chez nous et ailleurs, après ça tournera. C'est des questions d'une dizaine d'années pour que les choses prennent un sens et puis du coup éveillent un peu la sensibilité de chacun. Et puis ça, après, ça devient la routine, ça va tourner. Mais c'est vrai que dans la mise en place, on ne peut pas le plaquer comme ça. Ça, on l'a vu tout de suite. Et Patricia a été là pour nous dire, attention, parce que bon, moi, je me suis occupée justement de l'histoire de compostage au départ en tant que membre du conseil d'administration avec une autre administratrice, Véronique. Nous, on était prêtes à dire à Patricia, allez hop, maintenant, on récupère tout et tout. Et Patricia nous a dit, stop, mais vous ne lisez pas. Et je crois qu'elle avait complètement raison. Enfin, ce n'est pas que je le crois, c'est que je suis persuadée qu'elle avait complètement raison. Et on a bien réalisé que ça a modifié beaucoup de choses dans le comportement du travail, de la façon de travailler. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, le travail, il est intéressant aussi quand on change. Et ça fait partie du système de management intégré qu'on a choisi d'avoir. C'est toujours repenser à sa façon de travailler, à économiser ses gestes, à faire attention, à être sensible à son environnement. Voilà, donc ça en fait partie et c'est ça aussi qui nous intéresse. Des déchets, on va loin finalement.
Moins de consommation au départ fait moins de déchets à la sortie.
Voilà, complètement.
C'est une philosophie.
Très bien, bah merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
J'ai entendu quand même un certain nombre d'appels du pied vers la communauté de communes. Ils avaient envie, ils ont porté un projet, et puis vous avez sans doute apporté votre contribution, mais pas autant qu'ils auraient voulu.
Bien sûr, on a jugé de les aider. On a fait, à mon avis, on a fait pas mal. Hein. On les a bien conseillés, tout ça. Puis je voudrais rassurer Patricia et Bénédicte. Hein. On sera toujours, si elles ont besoin, elles peuvent nous téléphoner ou nous contacter. On sera toujours à leur côté. Et je pense que pour tout le territoire, c'est une très très bonne expérience. Et je voudrais aussi ajouter que cette expérience, on l'a commencée pour la deuxième année consécutive sur le Lameau de Chalencon. On a signé un partenariat avec Rémusa, c'est une communauté de communes voisines qui, eux, sont équipés d'une plateforme de compostage. Donc on a signé un partenariat avec la communauté de communes du pays de Rémusa. Sur Lameau de Chalencon, ils ont une collecte spécifique avec le camion de la commune de Rémusa. Certes, ce n'est pas les résultats qu'on espérait, parce que nous, le but, c'était d'éviter d'enlever des ramassages sur la commune de La Motte. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et nos collègues de Rémusa nous disent, tenez bon, parce que nous, pour que ça marche sur le canton de Rémusa, il a fallu 10 ans. Il a fallu aussi se fâcher. À certains moments, il fallait que les chauffeurs et les rippers se fâchent et aillent carrément taper chez l'habitant à la porte en disant, voilà, faites attention, faites attention.
Et une deuxième petite pause musicale avec Le Gâteau par As de Trèfle, extrait de leur disque Au Lénin de l'an 2000.
Qui me manque avec 3 balles de saltimbanque, avec 100 balles et une bonne planque, je rêve de faire sauter la banque. Sauter la banque. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau sur la cerise. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau. Je bosse toute l'année, je compte sur le talent et la chance. Je vois trop de gens qui s'ennuient que la mort. Affauché d'avance, affauché d'avance. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau sur la cerise. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau.
Est-ce que la communauté de communes offre des services pour des associations ou des entreprises qui voudraient s'y mettre au recyclage, mais qui se demandent comment ?
Pour l'instant, nous sommes au coup par coup sur les déchets verts. On a privilégié les collectivités, donc le Martouret est un exemple, et vous voyez que les choses, même avec des collectivités qui sont volontaires, ne sont pas toujours simples et rapides, puisqu'on a tout un tas de changements de pratiques à mettre en œuvre, et que faire quelque part moins cher et plus simplement, des fois, c'est compliqué. Et ça prend du temps. Parce qu'on doit changer les pratiques de chacun, les gestes de chacun au quotidien. Et donc, on a transféré cette expérimentation au niveau du lycée et du collège. On accompagnera également des logements collectifs à Recoubo, qui sont en train d'être terminés par l'office départemental d'HLM, et également les ZAT à Recoubo. Si certains collectifs de particuliers veulent être accompagnés sur un quartier, la possibilité est offerte. On avait des contacts avec deux collectifs de particuliers, on attend des contacts de leur part pour les accompagner. L'idée, c'est que la communauté de communes investit dans le matériel, c'est-à-dire des bacs de compost. Une unité de compostage, ça demande quelques mètres carrés, mais dans la représentation des gens, c'est pas évident. Donc ça a pris du temps pour trouver une localisation au Martouré, pour trouver une localisation au lycée, parce qu'il faut discuter, proximité, odeur, montrer que ça ne sent pas, praticité, capacité à manipuler le compost.
Dans le reportage, elle semblait dire que s'il y avait plusieurs structures qui s'y mettaient, ça pourrait créer un effet boule de neige. Est-ce que c'est vrai ?
Ça dépend sur quoi. Le kilomètre le moins cher, c'est celui qu'on ne fait pas. Et donc on le voit avec l'exemple de la motte. Dès qu'on met en place un nouveau service, ça a un coût. C'est un coût de chauffeur, c'est un coût de camion, c'est un coût de transfert derrière. Et nous avons, dans le Diois et dans la vallée de la Drôme en général, suffisamment d'espace vert pour poser du compost pas loin de chez nous, un endroit 10 mètres carrés où on puisse poser 3 bacs à compost et faire du compost collectif. Mieux vaudrait mettre en place des systèmes de compostage de proximité que des tournées spécifiques. On fera beaucoup de kilomètres pour transporter de l'eau encore.
Je voulais rajouter aussi qu'actuellement, on mène un travail pour solutionner les déchets verts qui arrivent dans nos déchetteries en grosse quantité. Ça sature. Donc nous, la communauté de communes, on a un broyeur qui passe régulièrement, mais ça fait du stock et ça nous embête un petit peu. Donc ce qu'on est en train de calculer avec les services de la communauté de communes, c'est de mettre en place un réseau d'agriculteurs qui pourraient accepter chez eux des déchets verts et il y aurait un broyage qui se ferait chez l'agriculteur. Et le broyat serait à la disposition de l'agriculteur. On travaille là-dessus, je pense que ça va pouvoir démarrer à l'automne.
Mais ce sera réservé aux professionnels qui produisent des déchets verts, puisque évidemment, on ne peut pas demander à des agriculteurs d'assurer un gardiennage de déchetterie. Le problème que nous avons en déchetterie, c'est le mélange des déchets. On retrouve dans des déchets verts du bois avec du métal dedans, etc. Donc ça cause des pannes sur le broyeur, d'une part. Et puis, on a du plastique, etc., ce qui n'est pas raisonnable dans un compost. De manière générale, sur les efforts que peuvent faire les entreprises, nous avons parlé jusque-là de ce que pouvaient faire les particuliers, de ce que pouvaient faire les collectivités. Maritizi a dit que les entreprises étaient responsables de leurs déchets, mais nombre des déchets d'entreprise arrivent dans les bennes des collectivités, nous devons les traiter. Aujourd'hui, nous travaillons à l'inventaire de ces quantités de déchets qui arrivent de la part des entreprises et nous allons travailler avec elles sur les aider à trouver des pistes pour réduire leur production de déchets si cela est possible, mais aussi pour les mettre dans les bons circuits au meilleur coût possible et notamment dans des circuits qui permettent le réemploi de ces déchets le plus localement possible. Donc on l'a vu avec les déchets verts, mais ça pourrait être le cas pour certains plastiques, avec des entreprises de la plasturgie du bas de la vallée de la Drôme qui pourraient les réutiliser. Et ça peut être le cas avec certains matériaux de déconstruction, avec du bois, et de manière générale avec le système des recycleries. Donc ce sont les pistes de travail que nous avons aujourd'hui pour réemployer un certain nombre de matériaux, leur donner une deuxième vie ou une deuxième fonction.
Une dernière petite question pour l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de la redevance sélective ? D'abord, peut-être l'expliquer aux auditeurs et ensuite dire ce que vous en pensez.
Dans les principes, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est que chacun paye pour ce qu'il jette. Donc, on a des collectivités qui ont expérimenté ça depuis de nombreuses années maintenant, où vous payez soit au litre de bac que vous avez à votre disposition et que vous sortez tous les matins, soit au kilo d'ordures que vous déposez dans des bacs ou au nombre de sacs que vous déposez dans des bacs. Et ça permet, en théorie, une imputation plus juste du prix du traitement des ordures en fonction de ce que vous jetez. Le problème de ces systèmes, c'est leur mode de gestion. Donc il faut investir dans du matériel qui permet le comptage d'une part, il faut investir dans la gestion même du prélèvement de cette redevance au sein de la collectivité, puisqu'aujourd'hui la taxe sur les ordures ménagères est gérée pour notre compte par le receveur de la communauté de communes. Donc c'est toute une logistique qui est à mettre en place, qui a un coût, et l'adaptation de la redevance qui n'était pas incitative, qui pouvait être mise en place par certaines collectivités, ne s'est pas faite en zone rurale notamment, du fait de tous ces blocages. Donc la loi aujourd'hui va sûrement nous pousser à aller vers, reste à voir les aménagements qui seront proposés pour les zones rurales et le rythme auquel nous devrons y aller.
Il faut aussi ne pas oublier la TGAP, la taxe générale des activités polluantes qui nous est imposée. Ça fait partie des grenades de l'environnement. Je crois que là, de mémoire, ça va être 17 euros la tonne d'ordures ménagères pour les années qui viennent. Et sachez que les élus de la communauté de communes, l'exécutif, est très vigilant à ce que le coût de nos ordures n'explose pas. On s'y attache avec tous les services.
Jean-Pierre Huit et Philippe Méjean, merci d'être venus. On a l'impression de survoler. C'est pas en une heure qu'on va régler le problème. Mais enfin, on fait un petit peu d'informations.
Merci.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Biotope. un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Un programme soutenu par BioValley.